ce 13 décembre, rencontre spirituelle, j'ai pensé que ce serait intéressant de parler d'un bienheureux récent qui nous fait penser à nous, de Montréal, de Ville-Marie, au frère André, et qui a vécu en Irlande. Il était d'origine hollandaise, le bienheureux Charles Houben, H-O-U-B-E-N, qui est mort en 1893. Il est né en Hollande en 1821. On l'appelle le thaumaturge d'Irlande, tellement il a fait de simples miracles dans le genre du frère André. C'est aussi aujourd'hui un jour auquel personne ne pense. C'est un très grand anniversaire. 450 ans aujourd'hui même, s'ouvrait à Trente dans le Nord, une ville qui s'appelle Trente, n'est-ce pas, le Concile de Trente. Et oui, s'ouvrait le Concile de Trente le 13 décembre 1545, il y a exactement 450 ans aujourd'hui. Et grâce à des renseignements que j'ai puisés chez Jean Delumeau, le grand historien catholique, Jean Delumeau, professeur au Collège de France, qui a surtout consacré ses recherches à l'évolution du christianisme à la fin du Moyen-Âge, n'est-ce pas, puis au début des temps modernes. Donc, il connaît très très bien cette époque, et il a écrit d'ailleurs « Naissance et affirmation de la réforme », et puis, en particulier, « Le catholicisme entre Luther et Voltaire », qu'il a publié en 1971. Et « Le christianisme va-t-il mourir », qui avait fait sensation, ce livre, en 1977. Et « La peur en Occident », aussi en 1978. Il m'avait d'ailleurs demandé de corriger certains chapitres, car je le connais bien, Jean Delumeau. Il m'avait envoyé certains de ses chapitres pour que j'apporte des corrections, mais je m'en sentais incapable. Il m'a pris pour quelqu'un d'autre. Je suis beaucoup trop ignorant pour pouvoir aider un grand savant comme ça. Et il a aussi publié Le cas Luther, qui est très intéressant aussi. Puis Le péché et la peur, c'est-à-dire, en 83, c'est fascinant. Et Ce que je crois, en 85, etc. Donc, Jean Delumeau, je m'inspirais de lui tout à l'heure pour le Concile de Trente ou la Renaissance catholique au XVIe siècle. C'est à l'époque où l'Église occidentale, l'Église catholique, l'Église latine, a vacillé, on peut dire, sur ses bases. C'était un ébranlement comme jamais elle n'en avait connu, probablement. Surtout qu'à la suite des réformateurs protestants, Luther, Calvin, etc., toute une partie de la chrétienté avait rejeté les fondements même de la foi catholique. Alors, c'était quelque chose que ce concile, et vous verrez comme il y avait, à certains moments, très peu de pères conciliaires, c'est surprenant. Alors, je commence avec le bienheureux Charles Houben, né en 1821, mort en 1893, et qui a été béatifié le 16 octobre 1988, comme vous voyez, c'est tout récent. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Jean-André Houben, je donne les noms à la française, est né à Münstergelin. C'est un petit village sur les frontières des Pays-Bas, de la Hollande et de l'Allemagne et de la Belgique. C'est juste tout près des frontières. Et son père, Pierre Houben, a écrit dans un carnet à la naissance de son fils, Jean-André Houben est né le 11 décembre 1821, gloire et merci à Dieu. Il avait un père profondément croyant, comme on voit, gloire et merci à Dieu. Il savait rendre grâce, il savait se rendre compte que c'est pas lui qui l'a fait, l'enfant. Moi, quand je vois les gens qui s'imaginent qu'ils font des enfants, ben voyons, comment peuvent-ils faire un cerveau, des yeux, des oreilles, des mains, un cœur qui bat, des poumons qui respirent, et tout ce système extraordinaire, et cet être qui pense déjà, et qui a des réactions en tous les cas dans le sein de sa mère, et quand il sort, et qu'il ouvre les yeux, et qu'il reconnaît, et qu'il sourit. Quelle merveille qu'un être humain, ce n'est pas les parents qui font ça. C'est donné par Dieu aux parents, alors gloire et merci à Dieu. Nous devrions tous dire ça quand un enfant naît. Quel bel exemple le père de ce bienheureux nous donne. Et cet enfant, ce bébé, était le quatrième d'une famille qui va en compter 11, imaginez. Le père, qui s'appelait Pierre, et la mère Jeanne travaillaient comme meuniers, tout simplement dans un moulin qui appartenait à leur oncle. Et André a décrit le programme de vie religieuse de la famille dans une lettre à sa sœur. C'était très simple, le style de prière qu'on avait dans mon enfance dans bien des foyers. Prière le matin, prière le soir, puis la récitation du chapelet le soir. C'est tout, simplement. Mais ça n'existe pour ainsi dire plus aujourd'hui. Et pourtant, c'était si répandu il y a à peine quelques dizaines d'années. André était un enfant gêné, tranquille, affectueux envers les membres de sa famille. D'après le témoignage de son frère, quand on le laissait courir autour de la maison ou dans les champs, il aimait à chanter à tue-tête. Sympathique, ça. Ah, un enfant qui chante, c'est très, très bon signe. Je me souviens quand j'ai adopté mon fils, qui était malheureusement un pauvre itinérant, un jeune itinérant, comme on en voit, n'est-ce pas, actuellement, le père Pops l'a fait une campagne pour aider ces jeunes qui traînent dans les rues. Et mon fils Guy, je me souviens comme il chantait dans la salle de bain. L'appartement est très grand chez moi, et il y a 3 chambres à coucher, etc. Puis c'est pour ça que je pouvais me permettre d'adopter quelqu'un, d'ailleurs, autrement j'aurais jamais pu. Et puis il chantait, c'était merveilleux. Puis, c'est beau un enfant qui chante, mais il était tellement heureux d'être adopté. Hein. Et pour fréquenter l'école, notre jeune bienheureux, je sais pas, il était peut-être pas déjà bienheureux à cet âge-là, il devait marcher 3 kilomètres chaque jour. Hein. Ça me rappelle mon enfance. Pendant 10 ans, il fut fidèle à se rendre à l'école de Sittard, S-I-T-A-R-D, en Hollande, là, et les voisins disaient, quand est-ce que ce stupide fils de meunier va-t-il finir d'aller à l'école? C'était la mentalité de l'époque, alors c'est pas rien qu'ici qu'on cherchait à empêcher les enfants d'étudier à cette époque, n'est-ce pas, au début, dans la première moitié du 19e siècle. C'était répandu à travers le monde. Il ne faut pas toujours s'accuser soi-même. Nous, les Québécois, c'est pas comme les autres. Nous étions comme les autres. C'est tout simplement comme ça. Et André voulait devenir prêtre. Mais il n'apprenait pas facilement. Il était lent. Il était même très, très lent dans l'assimilation des matières du programme, là. Alors, il a dû suppléer en faisant des heures supplémentaires d'études le soir et très tôt aussi le matin. Enfin, à 18 ans, en 1840, André a été appelé à faire son service militaire. Il l'a terminé en 1845. Mais il n'a fait de service actif que pendant 3 mois. C'était un soldat assez particulier. Hein? Il passait de longues heures en prière à l'église. Oh, ça me rappelle, je pense vous en avoir déjà parlé, j'étais tellement surpris. C'était à Barcelone, dans la cathédrale de Barcelone, à la messe. Je voyais des marins dans leur costume de marin, les jeunes de 20 ans, en prière, avant la messe, pendant la messe, et après la messe, en oraison. Ah, c'était l'Espagne, la Catalogne, 1950. Je sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, mais on voyait ça assez souvent, en Espagne. Des soldats, des marins, etc., en prière, qui assistaient à la messe. Étonnant, étonnant. On voit pas ça ici. Du moins, je n'en ai jamais vu, moi. Alors, quand il y avait du trouble dans la ville, pendant son service militaire, on faisait appel aux militaires, là, pour rétablir l'ordre. Et André était hanté par une peur épouvantable de tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce que avoir versé le sang aurait été pour lui un empêchement à son entrée dans l'état ecclésiastique et de devenir prêtre. C'était curieux. Curieux règlement, à mon avis. Et aussi, quand il fallait tirer, ben, il pointait son arme dans une autre direction. On raconte, j'ai peine à le croire, qu'un jour, dans sa gaucherie, il a failli descendre un officier. Bon, bon. À la fin de son service militaire, André Houben se sentait libre de prendre une décision concernant son avenir. Et sa mère était décédée l'année précédente. Et son oncle, le patron de la meunerie, était mort aussi. Il se sentait vraiment libre, alors... Charles fit part de sa décision à son père. Et on l'appelle Charles ou on l'appelle André, Charles c'est son nom de religion. Fit part de sa décision à son père qui chercha à le faire changer d'idée. Mais tout fut inutile. Charles avait 23 ans et sa résolution avait été mûrie longuement. Il entra chez les passionnistes. On connaît pas beaucoup les passionnistes ici. Il faudrait que je vous en parle un jour. Et alors, il est entré là le 5 novembre 1845, a pris le nom de Charles, justement, voilà, son nom, il change de André à Charles. Charles de Saint-André. Il garde donc André quand même. Alors, Charles de Saint-André a fait un noviciat et un scolasticat sans histoire. Bon, ses confrères signalent simplement quelque chose de bien sympathique. Il était toujours de bonne humeur et accueillant envers tout le monde. C'est simple. Ce sont pourtant des belles qualités, très simples, bonne humeur, accueillant envers tout le monde. Et en août 1850, son père est mort. Alors Charles de Saint-André fut ordonné prêtre le 21 décembre de la même année. Son pauvre père n'a pas pu assister à ça. Quelques mois à peine. C'est triste. Et personne de la famille, d'ailleurs, n'est venu assister à l'ordination. Il avait 28 ans. En février 1852, Charles a été envoyé en mission en Angleterre. Puis le 9 juillet 1857, il était nommé au Mont Argus, ou Mount Argus, près de Dublin, en Irlande, oui. C'est un monastère qui avait été fondé, un monastère de passionnistes qui avait été fondé 11 mois auparavant. Il y avait là 10 passionnistes qui vivaient dans une maison de ferme. Cette maison de ferme avait été transformée en couvent et le travail pastoral était harassant, paraît-il. Et la communauté vivait dans une grande pauvreté et souffrant même de malnutrition. Mais c'était pas drôle en Irlande à cette époque. C'était l'époque des grandes migrations, hein. Nous avons ici hébergé et accueilli tellement d'Irlandais qui sont devenus d'ailleurs des nôtres, qui sont devenus ce qu'on appelle des Canadiens français. Moi, j'avais deux oncles, des Canadiens français, Walter Reed et puis Arthur O'Donoghue. On prononçait ça à la française, il voulait pas prononcer ça à l'anglaise. Arthur O'Donoghue, d'ailleurs, qui a été le père de George O'Donoghue, jésuite remarquable, dont un jour je vous parlerai, car mon cousin, du même âge que moi, qui est décédé il y a 2 ans, je crois qu'il est mort comme un saint. C'était vraiment un exemple de vie de jésuite. Et c'est pas moi qui le dis seulement, les jésuites le disent aussi, y compris M. René Barbin ici, qui l'a bien connu. Et alors, au Mont Argus, qui était à 3 000 de Dublin, en pleine campagne, il y avait là des baraques militaires dans le voisinage du monastère. Alors Dublin, la grande ville où travaillaient les passionnistes, comptait 250 000 de population. Et d'autres militaires y résidaient. Mais qui étaient ces militaires? Des Anglais. C'était pas des Irlandais, c'était l'occupation. Car l'Irlande a été soumise péniblement à l'Angleterre pendant 7 siècles. C'est horrible. Ils ont été exploités, ces pauvres Irlandais. Il faut lire l'histoire de l'Irlande. J'ai lu un immense bouquin il y a 20 années. Ça m'arrachait presque les larmes. Quand on voit un peuple être exploité comme ça par un autre, c'est épouvantable, épouvantable. Dublin n'était pas une ville sainte. On y souffrait beaucoup. Ici, on se fie aux statistiques de 1850, à cette période où notre bienheureux est arrivé, il y avait 147 bordels, probablement pour satisfaire les besoins des militaires anglais. Il y avait 1057 prostituées, 1500 tavernes. Il faut reconnaître quand même que les Irlandais aiment bien boire. C'est un de leurs plaisirs de se réunir et de chanter. On voit ça aussi en Angleterre et en Écosse. Et en Allemagne aussi, hein? Alors, les meurtres étaient au programme quotidien, paraît-il, à Dublin à ce moment-là. Et l'ignorance religieuse était épouvantable. Ça ressemble beaucoup à l'ignorance religieuse de certains de nos enfants aujourd'hui. On raconte que les petits Irlandais de l'époque, au milieu du siècle dernier, là, savaient faire le signe de la croix, mais ne pouvaient réciter le Notre Père ou le Je vous salue Marie par cœur. Ils ne le savaient pas. Mais j'en connais, moi, des jeunes aujourd'hui qui ont 18 ans et qui ne savent pas leur Notre Père ni leur Je vous salue Marie par cœur. J'en connais. Et la propre mère que j'aime tellement, la propre mère de mon petit-fils Pascal, un jour chez moi, elle voyait une image de sœur Élisabeth de la Trinité. Elle ne savait même pas ce que c'était que la Trinité. Et quand je lui ai dit de faire son signe de croix, qu'elle a très bien fait, mais piété, car c'était une bonne enfant, elle avait 19 ans, elle ne savait pas ce que ça voulait dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, car elle dit, elle m'avait avoué, mais papy, on m'a jamais dit ce que ça voulait dire. C'est inconcevable, à 19 ans. Évidemment, je lui ai expliqué sur le champ, en ce monsieur empressé. Alors, les passionnistes à Dublin ont ouvert des classes de catéchisme pour remédier à cette ignorance. Ils ont construit une maison de retraite de 80 chambres. C'était la première de ce genre en Irlande. Alors, notre père Charles de Saint-André passait de longues heures au confessionnal ou à visiter les malades. Il prêchait, mais ce ne fut jamais un grand prédicateur. Pourquoi? Parce qu'il contrôlait très mal la langue anglaise. Il était hollandais. Alors, notre père Charles était pris d'une immense pitié pour ces gens qui avaient tant besoin de Dieu. Il écrivait d'ailleurs à son frère en Hollande, « Il y a ici des milliers de gens qui ne font pas leur Pâques. Je suis bouleversé de voir combien Dieu est offensé dans cette grande ville, combien le Christ est crucifié par des péchés sérieux. » Alors, on a confié au père Charles la tâche de recueillir des fonds pour la construction d'un vrai monastère. Il y a réussi. Parce que Dieu lui avait fait un don spécial, et c'est ce dont je vous ai parlé au début, le charisme de guérison, comme le frère André. Des milliers de personnes, oui, des milliers de personnes, 300 par jour, selon les chroniques du couvent, venaient rencontrer le père Charles. Les guérisons étaient si nombreuses que les pères du monastère ne se donnaient même plus la peine de les noter, dit-on. Et selon un journal anglais, non pas irlandais, là, un journal anglais, c'était un pèlerinage constant d'aveugles, de boiteux et de malades qui se rendaient au Mont Argus. Les témoignages de guérison sont nombreux. Fin de la citation du journal. Le père Charles de Saint-André passait ses journées à bénir les malades et à les réconforter si bien qu'il est devenu épuisé, affaibli, d'une maigreur inquiétante à un moment donné. Et à partir de 1866, mais le père Charles a subi une espèce d'éclipse dans sa popularité de thaumaturge. Il a eu des difficultés, un peu comme le père Pio. Les difficultés ont surgi de deux sources différentes. Il y a eu d'abord un certain nombre de médecins qui dénonçaient le père Charles parce qu'il aurait dit à ses malades qu'il n'avait aucune raison d'aller voir les médecins pour se faire soigner. Les plaintes se sont rendues jusqu'au cardinal Cullen. On affirmait que des malades étaient devenus infirmes pour la vie, parce qu'ils n'avaient pas fait appel aux médecins à temps. Et le cardinal n'a donné aucune suite à leur dénonciation, car il connaissait le père Charles. Il s'est renseigné, il a bien vu que c'était pas vrai. Mais un incident plus sérieux s'est produit par la suite, et le père Charles avait l'habitude de bénir de l'eau. Avec la relique de Saint Paul de la Croix, c'est le fondateur des passionnistes, Paul de la Croix. Saint Paul de la Croix. Alors, les gens pouvaient en apporter de l'eau bénite à la maison et l'utiliser comme un sacramental. C'est normal, on peut le faire, hein. À l'église Notre-Dame de Lourdes, si vous y allez avec une petite bouteille, bien, en avant, à gauche, vous pouvez prendre de l'eau bénite. Et je vous le conseille. Ça n'est pas de la superstition. C'est un rappel de notre baptême. C'est un rappel de la source vive qu'est la grâce de Dieu. C'est un rappel de la beauté de l'eau, de toute façon, qui couvre cette planète, qui est pure et que l'on pollue actuellement de façon terrible. Même nos océans risquent d'être terriblement pollués sur les côtes. C'est terrible ce qu'on fait de l'eau actuellement. Et malheureusement, bien des gens peu scrupuleux là, ont récupéré de l'eau bénite par le père Charles. Ils sont mis à la vendre dans Dublin puis dans toute l'Irlande. Et le père Charles était bien innocent de tout cela, lui. On avait simplement misé sur sa popularité pour faire un coup d'argent. Alors le cardinal Cullen, puis les supérieurs des passionnistes se sont entendus pour décréter que le moyen radical, mais pour faire cesser cette pratique, il n'y avait qu'une seule solution, c'est d'écarter le père Charles du Mont Argus, et le pauvre lui a été puni d'une certaine façon. Sa nouvelle nomination l'envoyait en Angleterre, imaginez. Puis il n'aimait pas tellement les Anglais, il est parti un peu comme s'il avait été coupable. Mais seul le frère Michel, son vieil ami, l'accompagna. Quand il a pris le bateau pour se rendre à son nouveau poste dans la maison du noviciat en Angleterre. Il y est resté 8 ans. Il a fait un travail pastoral dans les paroisses, puis il a rempli de petites charges auprès des novices. Et là, Le 10 janvier 1874, à 52 ans, le père Charles est revenu au Mont Argus. Il était enfin revenu auprès de son peuple irlandais. C'est comme ça qu'il appelait les Irlandais « mon peuple ». Immédiatement, les processions de malades se sont retrouvées à prendre le chemin du Mont Argus. Mais sa santé fléchissait de plus en plus. Il voyait venir la mort avec une certaine appréhension. Ils aient tant de communions, tant de messes, tant de confessions, et je suis encore moi-même un pécheur. Est-ce que je vais aller au ciel? Il était inquiet. Peut-être ne croyait-il pas suffisamment à l'amour de Dieu. Et pourtant, de jour en jour, il était de plus en plus absorbé en Dieu. Il était en constante contemplation. Cette quasi-rupture avec le réel lui a joué un vilain tour. Un jour, on dit que le plombier était à faire des réparations dans les toilettes de la communauté. Il avait laissé une trappe ouverte et le père Charles, malheureusement, lui a fait une chute spectaculaire de 7 pieds. Il s'est fracturé le bras droit. Il est resté handicapé de ce bras jusqu'à la fin de sa vie. Et le 8 décembre 1892, il ne descendit pas dîner avec la communauté. C'était à la veille de son 71e anniversaire et on l'a trouvé étendu dans sa chambre, les jambes enflées. Il a vécu quelques jours encore. Après avoir perdu la vue complètement, il s'est éteint doucement. Il a rendu son dernier soupir sans soubresaut. On aurait cru qu'il venait de s'endormir, mais sa respiration s'était arrêtée. Et quand la nouvelle de sa mort s'est répandue, les foules se sont mises à fuir au Mont Argus. Et on a dû demander l'aide de la police pour assurer la circulation. Alors là, les journaux de Dublin ont rapporté que des dizaines de mille personnes, ça rappelle bien les funérailles du frère André. J'y suis allé, moi, j'étais enfant. J'étais amené par ma tante Rose, au Grand Champagne. Elle m'avait amené à l'oratoire. Nous avions attendu dans la neige. Oh, c'était au début de janvier, c'était terrible. Et c'était très, 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 très long pour arriver enfin en haut de la côte, là, au tombeau du frère André. Oh, je m'en souviendrai toujours. Et alors, là, des dizaines de milliers de personnes ont défilé devant le corps de notre saint. Il fut enterré au cimetière de la communauté, puis les foules venaient prier jour et nuit sur sa tombe. Ils apportaient de la terre comme relique. Et en 1949, on a transféré le corps dans l'église. Le père Charles, c'est un homme saint, disponible, empressé auprès des malades. C'est ça qu'il faut retenir. Il n'hésitait jamais à répondre à leurs demandes. Et quand il était libre, il passait une partie de son temps ou devant le Saint-Sacrement. Il se préparait pendant une heure avant de célébrer la messe. Oui, il se préparait pendant une heure, puis il prenait une heure pour la célébrer. C'est rare qu'on voit ça, hein? Il avait une grande dévotion envers la Vierge Marie. Il ne cessait de recommander aux gens de la prier. Un jour, il était au réfectoire de la communauté. Il s'est mis à dire tout fort en regardant au plafond, « Marie, Marie !» Alors les autres religieux regardaient dans la même direction, puis ils n'ont rien vu. Là, le supérieur était intervenu, il dit, « Frère Charles, vous troubliez la communauté. » Mais je pense que le supérieur s'était rendu compte. Et quand il se portait vers les malades, il commençait par parler de la passion de Jésus. Il était passionniste. La communauté des passionnistes. Puis, il priait en silence avant de les bénir chacun individuellement. Modeste, simple, père Charles avait désiré passer inaperçu jusqu'à la fin de sa vie, mais il est resté avec un cœur d'enfant, facile à épanouir et ouvert à toutes les misères humaines, ouvert, ouvert. Il a toujours aimé à chanter aussi, au chœur, à l'église, en récréation. À son procès de béatification, l'avocat du diable n'a pas manqué de signaler certaines tendances qui étaient moins édifiantes. Ainsi, il se serait montré impatient à l'endroit du frère Salvien, qui le taquinait sans cesse sur ses dons de thaumaturge pour éprouver sa sainteté. On rappelle aussi qu'il aimait à priser du tabac, et on voyait souvent de la poussière de tabac sur sa soutane. Alors, on l'a béatifié quand même. On a mentionné aussi qu'à l'occasion, le père Charles ne refusait pas un bon petit verre de brandy, hein, comme les Irlandais, quand on lui en offrait. Au fond, c'était un simple de cœur qui aimait la belle nature de Dieu. Et pour se reposer de ses corvées, de rencontres avec les malades, il se promenait dans le jardin, il admirait les fleurs, il s'extasiait devant des petits chats. Et un cœur simple, sans prétention, tourné entièrement vers Dieu et vers ceux qui recouraient à lui. Voilà ce pauvre vieux Charlie, comme on l'appelait, que l'Église a voulu béatifier, le bienheureux père Charles Houben. à Rencontres spirituelles sur les ondes de Radio Ville-Marie. Nous passons maintenant au Concile de Trente, dont c'est le 450e anniversaire aujourd'hui de l'ouverture, le 13 décembre 1545. Mais auparavant, je voudrais saluer comme ça, je vais surprendre peut-être quelques personnes qui connaissent l'histoire, je voudrais saluer Frédéric II, grand empereur, décédé le 13 décembre 1250, qui avait été excommunié par le pape. Mais quelle tristesse que cette excommunication quand on connaît l'histoire. Quelle tristesse. Moi, quand je lis des choses comme ça, ça me fait de la peine. Mais enfin, je vous expliquerai ça l'an prochain. Je vous laisse en suspens pour un an. Alors, nous passons donc au Concile de Trente. Je vous ai dit qu'au XVIe siècle, l'Église latine, l'Église d'Occident, était en grave danger. Elle vacillait sur ses bases. Il y avait un ébranlement épouvantable à la suite des réformateurs protestants, en particulier Luther et Calvin. Toute une partie de l'Église rejetait les fondements même de la foi catholique. L'Église se divisait. C'était une coupure terrible. Et le Concile de Trente a créé, dans l'histoire du catholicisme, une espèce de césure étrange. Ça a séparé deux époques, dont la seconde ne s'est terminée, on peut dire, qu'avec le Concile Vatican II. Pourtant, ce concile s'est ouvert dans un climat de doute, de scepticisme. Il n'y avait que 30 pères conciliaires, 30 évêques, seulement, les trois quarts italiens, qui ont assisté à la séance d'ouverture le 13 décembre 1535. Seulement 30, c'est terrible, il y en avait beaucoup plus que ça d'évêques dans le monde. Si un parlement de la chrétienté catholique s'était réuni avant la condamnation des thèses de Luther en 1520, si on avait fait une espèce de concile, avant aussi l'excommunication de Luther l'année suivante en 1521, ou même peu après ces deux graves dates, il est probable, selon Jean de Limoux et bien d'autres historiens, qu'on aurait pu faire arrêter le schisme. Car le schisme n'était pas décidé au début. Luther ne voulait pas la séparation, il voulait la réforme. Comme d'autres l'ont voulu au sein de l'Église, sans se séparer. Mais Rome a refusé de prendre à temps cette initiative qui aurait pu sauver l'unité de l'Église. Pape depuis déjà 7 ans, le pape Clément VII ne s'est décidé qu'en 1530, sur la demande pressante de l'empereur Charles Quint à promettre de convoquer un concile, simplement promis. C'est pas décidé encore. Ça, c'est à la condition que les protestants reviendraient auparavant à la foi catholique. Quelle étrange condition. Quel étrange pape. Alors, Clément VII n'a rien fait. Paul III, son successeur, au contraire, a lancé en 1536 une bulle de convocation. Mais c'est simplement une convocation. Parce que la séance d'ouverture, c'est en 1545, presque 10 ans plus tard. Alors ensuite, il a reculé une demi-douzaine de fois la date de l'ouverture des travaux. Et puis, il n'a pas porté seul la responsabilité de ce retard. Comment réunir d'ailleurs une véritable assemblée œcuménique, un véritable concile, quand la France d'un côté, puis l'Empire et l'Espagne de l'autre se faisaient presque constamment la guerre? Alors, le concile était réuni 25 ans trop tard. Oui, 25 ans trop tard. Et ce concile a manqué l'objectif majeur qui aurait dû être le sien, c'est-à-dire la réunion des chrétiens. Il est beaucoup question actuellement de la réunion des chrétiens, de l'unité. Mais on a raté le coup, là, à ce moment-là. Et des deux côtés de la barrière confessionnelle, on ne concevait pas de la même façon l'assemblée œcuménique. Pour les protestants, elle devait être libre, ouverte aux théologiens réformés, protestants et aux laïcs. Et cette réunion devait être supérieure au pape, dont l'autorité était justement contestée. Puis ça devait se tenir en Allemagne. le lieu d'origine des conflits religieux. Mais le pape refusait, dès le début, toute contestation de sa suprématie. Je comprends d'ailleurs. Et toute remise en cause de la condamnation des thèses luthériennes, il fallait bien les remettre en cause, ces thèses de Luther. Et le pape désirait aussi que le concile se tienne en Italie, qui était le pays fidèle à Rome. Si on était parvenu à s'y entendre, là, momentanément, sur le problème de la justification, je vais vous expliquer, on avait abouti à une totale impasse théologique au sujet de l'Eucharistie, puis de la pénitence, le sacrement de la réconciliation. Là. Alors, le choix de la ville de Trente, une ville italienne, mais qui était une terre d'empire, c'était dans le nord de l'Italie. L'Italie, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Puis la venue au concile de quelques représentants des princes de l'Allemagne qui avaient un grand pouvoir sur les chrétiens, les princes de l'Allemagne protestante, ne pouvaient plus modifier la situation. Les jeux étaient faits, hein, les options prises. Il y avait un point de non-retour qui avait été atteint. De toute façon, on est frappé par le faible nombre des pères qui participent aux différentes sessions. Alors que 300 évêques environ avaient suivi les travaux du troisième concile de Latran, et 404 ceux du quatrième concile de Latran, bien à Trente, au concile de Trente, on n'en a jamais compté plus de 237 votants, c'est tout. Et encore, ce chiffre est-il trompeur, d'ailleurs, hein? Car les plus importantes décisions doctrinales du Concile se sont tenues en 1546, 1547 et en 1551, là, sur la tradition, très important problème, sur le péché originel, sur la justification par la grâce, sur l'Eucharistie, sur la messe, si vous voulez, et sur les autres sacrements. Mais ces décisions furent prises par des assemblées qui ne réunirent jamais plus de, imaginez, 72 votants. C'est incroyable quand on lit ça. Mais c'est bon qu'on le sache, nous, catholiques, et qu'on puisse faire une analyse et mieux saisir les drames qui se sont produits à ce moment-là. Or, en 1545, déduction faite de l'Angleterre, de la Scandinavie, les pays du Nord et des diocèses allemands qui étaient passés à la réforme protestante, bien le nombre des évêchés, où il y avait des évêques, là, en Europe, dépassait largement les 500. Hein. Comment ça se fait qu'il n'y en avait rien que 72? Parce que les évêques n'étaient pas sérieux. Oh, il y a des gens qui vont me blâmer de dire ça sur les ondes. Oui, vous verrez, l'Église était sous bien des aspects décadente. Oh, il y avait de saints évêques, mais il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas. Ils avaient été nommés par les princes, ils avaient été nommés par l'État. Et souvent, souvenez-vous, il y avait des évêques qui étaient athées. L'évêque de Paris, au 18e siècle, se déclarait ouvertement athée. Il avait été nommé par le roi de France. L'Église souffrait de ça. Les papes souffraient de cet état dans notre Église. Notre Église était attaquée, en fait, par l'État, à l'intérieur même, par la nomination des évêques, qui dépendaient des princes et des rois. C'était une situation effroyable. Et autre fait encore, parce que la résidence d'un évêque n'était pas suffisamment observée, un évêque devait résider dans son diocèse, mais beaucoup d'évêques vivaient à Rome. Et c'est comme ça qu'en 1556... Bon, 11 ans après l'ouverture du concile, il y en avait 113 évêques comme ça qui vivaient à Rome plutôt que de vivre dans leur diocèse. C'est incroyable, parce que ça leur plaisait. Il y a souvent plus d'évêques à Rome d'ailleurs qu'à Trente. Au concile de Trente, là, il y avait 72 évêques, disons, puis à Rome, il y en avait 113. C'est inconcevable. De sorte que le concile a été écuménique en droit. Bon, c'était un concile écuménique, on peut pas le nier, mais il était pas écuménique en fait. Il représentait d'ailleurs la chrétienté du sud de l'Europe. C'est tout. Et comment se fait-il qu'une assemblée ecclésiastique si peu nombreuse, dans la plupart des sessions, si hésitante parfois, là, beaucoup d'évêques ne savaient que penser là, de la justification par la foi, puis s'en remirent à l'opinion des experts, parce qu'ils n'étaient pas là au début du concile, parce que le concile a duré très très longtemps. Comment se fait-il, là, qu'une assemblée ecclésiastique comme ça ait occupé finalement une place de premier plan dans l'histoire, hein? Mais une remarque est ici nécessaire. Hein? Si le concile de Trente compta au début peu de participants. En revanche, il est parvenu à grouper des effectifs assez importants. Et c'est là, il faut remarquer ça, il y avait plus de monde dans les dernières sessions. 255 pères représentant l'ensemble du monde, restés catholiques, ont signé le 5 décembre 1563 des décisions doctrinales importantes et des décisions disciplinaires aussi pour la réglementation dans l'Église, qui ont été prises souvent 15 ou 17 ans auparavant par d'autres qu'eux-mêmes, parce que le concile avait duré sur une période de 17 ans. Alors, ils ont assumé ensemble, donc, l'œuvre du concile. Ces évêques-là le firent avec d'autant plus de conviction qu'entre 1545-1549, la première période, et 1562-1563, ben le personnel conciliaire, si on veut dire, les évêques avaient changé. Puis les papes aussi avaient changé. On était passé de Paul III à Jules III, puis à Paul IV. S'étaient efforcés de choisir de meilleurs évêques. Heureusement, là, voyez-vous, la réforme protestante, ce schisme, a porté fruit. Les papes se sont ressaisis, ont exercé un plus grand pouvoir sur la nomination des évêques, se sont mis à décider que les princes ne devaient plus nommer les évêques. Le climat religieux et politique, d'ailleurs, s'était modifié en Europe, et au temps de Charles Quint avait succédé celui de Philippe II. C'était un autre esprit, et la grandeur du Concile de Trente tient en ceci, qu'il a répondu aux besoins religieux de cette époque. Tout comme le fait de son côté la réforme protestante. Ça nous brise le cœur, cette réforme protestante, mais il faut reconnaître qu'ils ont fait des choses très positives pour les chrétiens de ce temps. Oh, il y a eu des guerres, il y a eu des meurtres, il y a eu des pendaisons, des crimes abominables. Bon, d'accord, mais passons outre à ça et oublions ces méfaits. Regardons dans l'âme des protestants sincères. Il y a eu des choses admirables, et ça a éclairé par ricochet l'âme des catholiques, qui d'ailleurs aussi, chez les catholiques, il y avait beaucoup de saints et de gens sérieux. Et dans l'Église catholique a régné tout à coup une doctrine et un style différent. Et l'Assemblée de Trente n'a pas cherché à aller au-devant du protestantisme. Elle a eu pour souci majeur de répondre au protestantisme, aux négations des protestants. Elle a conservé jusqu'au bout une mentalité de ville assiégée. Les catholiques se sentaient un peu perdus, alors ils ont réagi, les catholiques, heureusement. Mais le constat de rupture était établi. Ils ont bien vu qu'il n'y avait plus rien à faire pour réunir les protestants aux catholiques. Et elle a donné à ceux qui restaient fidèles à Rome ce à quoi ils aspiraient. Un catéchisme, oh, on peut rire, mais au moins des certitudes dans la foi. Puis, des pasteurs, des vrais pasteurs, c'est très important. La théologie protestante avait trouvé son point de départ dans une conception très, très dramatique du péché originel. C'est, moi, je trouve ça épouvantable. Il disait, le libre arbitre, après la chute de nos premiers parents, là, n'est plus qu'un nom. Il n'y avait pas de libre arbitre. Imaginez. Ça dit qu'il n'y a pas de liberté. C'est Luther qui déclare ça en 1518. Et il ajoute, en faisant ce qu'il peut, l'homme pêche mortellement. Bon, tous les hommes, toutes les femmes, depuis Adam et Ève, pêchent mortellement, c'est inévitable, ils ne peuvent que faire ça. C'est incroyable. Alors le Concile de Trente a affirmé tout le contraire. Ils ont dit, Dieu ne est rien dans ceux qui sont régénérés. Et il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont vraiment ensevelis dans la mort avec Jésus-Christ par le baptême. Et on ajoutait que la concupiscence demeure assurément dans le baptisé. Bon, les baptisés ont des tentations, c'est sûr. Mais contrairement à la théologie de Luther, elle n'est qu'une inclination, cette concupiscence, elle n'est qu'une inclination au péché. Et cette inclination est susceptible d'être combattue victorieusement. Parce que ce n'est pas un péché véritable que d'être tenté. Mais Luther, pour Luther, c'était un péché. À moins que je me trompe. Mais enfin, c'est Jean de Lumeau qui me l'explique ainsi. Et c'est ce que j'ai lu dans divers ouvrages. Alors, les discussions sur la justification, c'est un problème le plus débattu à cette époque-là, au XVIe siècle, ont suivi, selon l'ordre logique, là, celle sur le péché originel. Et le décret final, qui en est résulté de tous ces débats s'explique par une espèce d'incertitude doctrinale sur la justification. À l'époque qui a précédé la réforme protestante, une incertitude telle que Luther, en exposant sa position à cet égard, n'a pas eu l'impression de présenter une théologie hérétique et nouvelle. Il se voulait toujours catholique au début, peut-être un moine, Augustin. Et il importait d'abord de définir ce que c'est que la justification. Ça a été fait en ces termes. Voici ce que c'est la justification. Elle est la grâce de Dieu par laquelle quelqu'un d'injuste devient juste. C'est-à-dire, c'est la transmission, ou plutôt la translation, le passage, si vous voulez, de l'état de péché en lequel l'homme naît enfant du premier Adam, avec la tâche originelle, comme on croyait, à l'état de la grâce et de l'adoption des fils de Dieu par le second Adam, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous libère et qui vit en nous. La plupart des décisions se rapportant à la justification lors du Concile condamnèrent des positions protestantes. Et tout d'abord, celle qui fait de l'homme dénué de libre arbitre, comme je vous ai dit tout à l'heure, un espèce de sujet passif de l'action divine. L'homme n'est pas agi par Dieu, qui serait d'abord responsable du mal comme du bien. Non, non, la préscience de Dieu n'est donc pas la prédestination, parce qu'il n'y a pas prédestination. Mais il y a une acceptation ou un refus par l'homme de la justification. C'est l'homme qui est libre, hein? C'est ça que l'Église enseigne. Et c'est très important, ça. Ça a l'air peut-être compliqué, mais essayez de vous souvenir que l'Église enseigne que l'homme est libre. Que les bonnes œuvres comptent pour le salut. Pas seulement la foi, comme disaient les protestants. Nous croyons, nous catholiques, qu'il faut des œuvres. D'ailleurs, c'est dans l'Écriture, hein, c'est dans l'Épître de Saint Jacques. Aussi bien, d'ailleurs, les préceptes de Dieu sont pas impossibles à observer, comme croyaient les protestants à cette époque. Mais je crois que les protestants ont bien changé d'avis depuis. L'Église catholique, de toute façon, de par sa position qu'elle prenait sur la justification par la foi, était tout naturellement conduite à insister sur la force puis la puissance des sacrements. Et c'est là une clé très, très importante. Les catholiques se sont distingués des protestants en insistant sur les sacrements aussi. Hein. En somme, les jeux sont pas faits d'avance. L'homme, la femme, peut se perdre ou se sauver suivant l'usage qu'il fera de la grâce. Les canaux par lesquels celle-ci coule vers lui redeviennent donc essentiels, et les pères du Concile réaffirmèrent donc la foi aux sept sacrements institués par Jésus-Christ, ce que les protestants rejettent. Hein. Ils ne gardent que quelques sacrements. C'est une doctrine qui ne s'était décantée dans l'Église qu'à partir du 12e siècle. Alors là, au Concile de Trente, au 16e siècle, on l'affirme. Et l'Assemblée de Trente ne s'occupa du mariage, du sacrement de mariage, que dans son avant-dernière session. De toute façon, l'Eucharistie a donné lieu à d'amples discussions. C'est très important ce que je vais vous dire là sur l'Eucharistie. Il faut bien retenir ça. Ah, c'est très important. Il y avait toutes sortes de doctrines protestantes qui couraient autour de l'Eucharistie, de la messe. Là, le Concile de Trente a réaffirmé cette grande thèse catholique de la transsubstantiation. Oh, qu'elle est difficile à croire, mais qu'elle est belle à croire. J'ai cessé moi-même d'y croire pendant un certain temps, et quand j'y suis revenu, ça a été une joie, on n'a pas idée. C'est comme avoir perdu un trésor de 1000 diamants les plus précieux de la terre et de tout à coup retrouver ce trésor. Et c'est plus grand encore. Voici le texte du Concile de Trente. Si quelqu'un dit que, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, il reste la substance du pain et du vin avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et il nie cette merveilleuse et unique conversion de toute la substance du pain au corps et de toute la substance du vin au sang, qui ne laisse subsister que les apparences du pain et du vin. Ça a l'air du pain et du vin, mais ça n'est pas du pain et du vin. Conversion, donc, que l'Église catholique appelle du nom très approprié de transsubstantiation, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit condamné. Bon. Prenons pas ça trop de façon grave. C'est difficile d'y croire. Demandons à l'Esprit Saint de nous y faire croire davantage. Demandons à nos prêtres de célébrer l'Eucharistie et de tenir dans leurs mains la très sainte aussi, le corps du Christ avec encore plus de respect que jamais. Qu'il nous donne l'Eucharistie avec encore plus de foi, que nous-mêmes nous la recevions avec plus de conviction. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer. C'est pas facile, c'est une démarche. Mais c'est une démarche qui remplit nos vies. Pour Luther et ses disciples, croire que le prêtre offre de nouveau à la messe le Fils de Dieu, à Dieu le Père, c'est blasphématoire. C'est blasphémer, disait-il, le sacrifice de la croix qui a été réalisé une fois pour toutes par le seul qui pouvait l'offrir, Jésus. Or, au concile, une minorité tenait que la scène n'est pas un véritable sacrifice, mais la majorité des pères du concile ont suivi l'opinion contraire en s'appuyant notamment sur une prophétie du livre de Malachie dans l'Ancien Testament, au premier chapitre, au verset 11. Je lis le texte qui est un peu difficile. « De l'Orient au couchant, mon nom, dit Dieu, est grand chez les nations, et en tout lieu un sacrifice d'encens est présenté à mon nom, ainsi qu'une offrande pure. » Comme si c'était une vision que Malachie avait de ce que serait la très sainte Eucharistie qui couvre le globe, et qu'ainsi partout serait offert cette offrande pure. Et en fait, c'est toujours le même et unique sacrifice. C'est-à-dire que c'est une offrande, un sacrifice est une offrande d'amour, d'amour parfait. Car le Christ, à l'autel, présent, est le Fils éternel de Dieu, et qu'il aime son Père d'un amour parfait, c'est l'amour du Fils éternel pour son Père. Et nous nous unissons en communion à cet amour parfait que le Fils porte à son Père. Et c'est ainsi que nous sommes plongés dans la Trinité, dans l'unité de l'Esprit-Saint. La messe est tellement beau que je me demande comment ça se fait qu'on n'y assiste pas tous les jours. C'est tellement grand, on me dira que je charrie. Je ne charrie pas. De toute façon, le Concile a mené de front des études théologiques et la mise au point de la réforme. Et dès sa cinquième session, il a pris un décret sur la prédication, principal devoir des évêques. Il disait « Évêques, archevêques, primats et autres préposés à la conduite des églises seront tenus et obligés de prêcher eux-mêmes le Saint-Évangile de Jésus-Christ. » Or, la consigne adressée aux évêques a été adressée aussi à ce qu'on appelle le bas clergé aux prêtres. Ils doivent prêcher eux-mêmes le Saint-Évangile de Jésus-Christ. Pas une moitié d'Évangile, mais tout l'Évangile, et nous interpeller à la sainteté. En somme, l'Assemblée du Concile de Trente s'est occupée aussi du cumul des charges, une des grandes plaies de l'Église d'alors, en disant que nul, de quelque dignité, grade ou prééminence qu'il soit, n'est la présomption de recevoir et de conserver ensemble plusieurs églises métropolitaines ou épiscopales. Il y avait des évêques qui étaient évêques de plusieurs églises, de plusieurs endroits, puis ils retiraient des bénéfices de ça. Alors ils se promenaient en carrosse. C'était un scandale. Alors l'obligation de la résidence est affirmée avec force par le concile dès le début du concile contre ceux qui font toute l'occupation de leur vie, dit le texte, d'être continuellement en voyage, des vagabonds en diverses cours chez les princes, ou plongés dans les soucis des affaires temporelles pour brasser de l'argent, abandonnant leur bergerie, abandonnant leurs fidèles, quoi, et négligeant le soin de leurs brebis. Le concile de Trente est un concile solide quand on lit ça. Le concile a rappelé donc aux évêques leurs devoirs. Il s'est efforcé aussi de leur rendre leurs droits, en rétablissant l'autorité de l'évêque, qui fut désormais considéré dans son diocèse comme le délégué du pape, le délégué du siège apostolique. C'était un redressement important aussi par la fondation des séminaires qui ont transformé la formation des prêtres. C'est extrêmement important. Mais le clergé ordinaire a répugné longtemps à s'instruire, à porter l'habit clérical que demandait le concile, et à enseigner le catéchisme. Le haut clergé et les évêques ont oublié souvent le premier chapitre du décret de réforme de la 25e session du Concile. Cardinaux et prélats mèneront une vie simple et frugale, demandait-on. Mais la richesse est restée la grande faiblesse de la haute Église de Rome. Quel scandale pendant tant de siècles. Mais aujourd'hui, quelle merveille de voir la simplicité de nos évêques et de nos cardinaux. J'ai même vu le cardinal Danieliou attendant l'autobus sur les Champs-Élysées. Ce fut donc un concile extrêmement important, malgré ses difficultés. Et c'est seulement au siècle suivant qu'on a commencé à adopter en Italie, sous l'influence des idées jansénisantes, dit Jean de Limoux, le séminaire de type français, où les futurs prêtres demeuraient environ 2 ans, mais recevaient une véritable formation sacerdotale. C'est là qu'on a commencé à avoir de bons prêtres. En somme, même si tous les objectifs fixés par le Concile de Trente n'ont pas été atteints, même si le rythme des visites pastorales et des synodes ne fut pas celui qu'on avait prévu, même si les séminaires ont eu en certains pays une naissance difficile, mais la vie quotidienne de l'Église catholique s'est transformée progressivement à partir de 1565 à la clôture de ce concile, dont on célèbre aujourd'hui le 450e anniversaire de l'ouverture.